au pays des contes. Bonjour. Classiquement, les contes commencent par « Il était une fois ». Alors, « Il était une fois, un vieux roi, dont la vieille reine n'avait donné le jour à aucun héritier. La mort le guettait, le royaume était sans prince et le vieux roi désespérait, d'autant plus que ses deux animaux préférés, une jument affable et une chienne aux yeux tristes, étaient restés stériles à l'instar de leur royale maîtresse. Un ultime espoir, pourtant, lui inspira l'idée de convoquer tous les lamas, les sages et les magiciens qui avaient quelque renom en matière de fécondité. Il fallait absolument et rapidement un héritier. Pendant plusieurs lunes, il y eut foule au palais. Les lamas, les sages et les magiciens n'en finissaient plus d'invoquer, d'évoquer, de bénir et de menacer. On multiplia les incursions puériles dans la sainte vacuité. On en rapporta des dragons immatériels, des griffons de gaz, des catoblépaces glissants et 81 chimères inutiles. Mais en aucun cas le secret de la fécondité de la reine, de la chienne et de la jument. Et les années passèrent, sèches, navrantes, et l'âge fondait sur le monde en étouffant le roi. Un jour, cependant, il se présenta au palais un personnage étrange. Un géant, drapé dans une cape de moire et coiffé du haut chapeau noir des exorcistes, dont les longues franges devaient cacher un masque pour le moins inquiétant. L'étranger ne salua pas, ne se nomma point, et, d'une voix sourde et puissante aux accents caverneux, déclara au roi « La maîtrise de la concentration mentale est une source de tous les pouvoirs. Je puis, Majesté, vous accorder les petits que vous voulez, mais à une seule condition. Écoutez-moi bien. Vous aurez 3 fois 3 enfants magiques. Votre épouse 3, la jument 3 et la chienne 3 aussi. Dans 3 ans, ils seront tous adultes par le corps et par l'esprit. Alors je reviendrai et j'emmènerai un de vos fils, une de vos juments et une de vos chiennes pour les prendre à mon service. » Ah, une étoile s'alluma dans les yeux du vieux roi. « Vraiment, que dois-je faire pour cela ?» « Rien de plus simple, Majesté. Tenez, voici 9 pilules, 3 pour chaque mère. Que chacune les absorbe d'un coup, et dans 3 mois, elle donnera le jour à un petit. Le mois suivant, au second, et le mois d'après, au troisième. » Ayant dit, le personnage se retira. Et il advint ce qu'il avait dit. La reine accoucha d'un garçon, la jument mit bas, et la chienne, enfin, eut un chiot. Les 2 mois suivants, il se passa la même chose. Ah, le géant inquiétant était extraordinaire. Mais lorsque, 3 ans plus tard, il réapparut au palais, quelque chose d'effrayant rayonnait de sa personne. Bouffi de larmes, secoué de remords, le vieux roi et la vieille reine discutent d'une chose affreuse. Lequel de leurs 3 fils ils vont abandonner, ou plutôt livrer à l'affreux magicien. Oh, « Nous ne pouvons pas lui donner l'aîné, » raisonne le roi en sanglotant. « Il est notre dauphin. Non plus que le puiné, car s'il arrivait le moindre malheur au dauphin. » Alors, sa vieille épouse et lui s'embrassent en tremblant. « Il ne nous reste qu'à lui livrer notre dernier né. » Et sur sa magique monture, le prince magique suit le magicien au dos vaste et sa chienne magique aussi le suit. Par les sentiers obliques comme des balafres sur les pentes, ils vont au petit pas. Le pays du magicien commence à un col où l'air rare porte la lumière à l'éblouissement. Le géant s'arrête, le prince le rejoint au-dessus du paysage profond et vaste de la vallée. « Voilà mon domaine, » rauque le magicien, « et là-bas, tout au fond, mon château. » Il désignait ce qui semblait une forteresse, une citadelle noire comme le nord. « Descendez le premier, jeune homme. J'ai affaire par ici. Je vous rejoindrai tout à l'heure. Quand vous serez arrivé devant le porche d'entrée, vous verrez une chèvre attachée à un anneau. À côté d'elle, mais loin de sa bouche avide, vous trouverez une botte de paille. Soulevez-la et laissez-la retomber à sa portée. Ensuite, vous entrerez dans la basse-cour et là, vous trouverez dans un coin une jarre de grains. Vous nourrirez ma caquetante volaille. C'est tout. Après, vous attendrez mon retour. N'entrez sous aucun prétexte à l'intérieur du château. Attendez-moi, je vous ferai les honneurs des lieux moi-même. » Inquiétante, la noire forteresse, non pas. Intéressante. Le prince mit pied à terre, souleva la lourde botte de paille et la laissa retomber sous le nez de la chèvre. Oh, en un clin d'œil, il n'y eut plus de paille, mais trois loups tout en crocs qui croquèrent la chèvre et s'enfuirent dans la montagne sans autre commentaire. Plus surpris qu'effrayé, le prince s'enfonça sous le porche et rejoignit la basse-cour, où plusieurs centaines de poulets affamés l'accueillirent comme en applaudissant, puis l'escortèrent jusqu'à la grande jarre où, en effet, leur pitance n'attendait qu'à être distribuée. Le prince plongea la main dans l'orge tiède et en jeta une poignée à la ronde. En touchant le sol, les grains se transformèrent en chats sauvages qui se ruèrent sur les poulets. Ah, ce fut la curée! Vite repus, les fauves étriqués déguerpirent vers la hauteur. Ah, cette fois, la curiosité du prince était piquée au vif. Fi des recommandations du magicien, il poussa la porte d'entrée du château. Elle céda, signe qu'il pouvait entrer, et il s'avança dans la pénombre. Décorées avec goût, luxueuses et confortables, les salles succédaient aux salles. Les étages s'entassaient, les couloirs s'enchaînaient sans autre particularité que leur nombre et leurs proportions gigantesques. Pas trace de vie non plus, voilà le plus étrange, pensait le prince. Au moment où, poussant une tenture qui peinait à masquer la lumière, il se retrouva dans une chambre dont les murs, le plafond, le sol et les meubles étaient de pur et radieux cristal. Sur une couche translucide reposait, immobile et les yeux clos, une jeune femme vêtue de blanc qui semblait endormie. Le prince s'approcha d'elle, elle respirait sans bruit. Elle était belle. Une fleur de lotus bleu ornait son oreille droite. Le prince se pencha pour la réveiller, il l'effleura, l'appela, claqua dans ses mains. Oh, rien n'y fit. La belle endormie n'eut pas un frémissement. Alors il saisit délicatement la fleur de lotus bleu pour la humer. La princesse ouvrit les yeux et s'assit comme un automate. Et lui, il fit un bond en arrière. À sa vue, elle sursauta aussi. « Qui êtes-vous » dit-elle. Sur ses gardes, le prince déclina son nom et son étrange histoire à la jeune fille qui l'écoutait bouche bée. Au comble de l'indignation, elle finit par s'exclamer « Ce monstre est un ogre expert en magie noire qui se nourrit exclusivement de cœurs humains. Si vous saviez combien de victimes inanimées il a rangées dans sa grande chambre froide !» Mais il est aussi bourré de défauts. En premier lieu, sachez, prince, qu'il n'a de pouvoir effectif que sur ceux qui lui désobéissent au nez et à la barbe, ceux qui le narguent. Sa méthode ne manque pas de subtilité. Aux nouveaux venus, il donne des ordres de plus en plus absurdes, de plus en plus terrifiants. Vous connaissez déjà les épreuves de la chèvre et des poulets. Minée par ces épreuves toujours plus dangereuses, toujours plus odieuses, la victime cède. Elle finit par se rebiffer et désobéir et sa confusion est telle qu'elle ne s'aperçoit pas que l'ogre vient de lui arracher le cœur pour le dévorer. Mon cher prince, vous voilà entraîné dans une sale affaire. Moi aussi, je suis fille de roi. Il y a un peu plus d'un an que mes parents, réduits aux abois comme les vôtres, m'ont livré à l'odieux personnage. Oh, non que je fusse la plus jeune, comme dans votre cas, mais parce que, révoltée de nature, j'avais quelque peu repoussé leur amour. Toujours est-il que le démon s'est amouraché de moi. Il est jaloux, bien entendu, et je ne suis jamais sortie de cette chambre où je ne survis que grâce à 1000 tours de bizarre magie. Il me cloue là, rien qu'avec cette fleur de lotus bleu. Dès qu'il la pose sur mon oreille, je m'endors. Et ainsi serai-je ici à jamais. Ah, tout cœur, tout flamme, le prince ne pensait plus qu'à en découdre avec le sorcier. Mais il ne le connaissait pas encore assez. L'inconvénient, reprit la princesse, c'est que, même si vous lui coupiez la tête, il lui en repousserait une autre. Et il ne mourrait pas du tout. Son principe vital, il ne l'a pas dans le corps comme nous autres. Mais c'est ce principe vital qu'il faut détruire pour en finir, ici-bas, avec lui. Et moi, prince, je sais où le monstre a caché l'essence de sa vie. Je vais d'abord vous expliquer la meilleure façon de régler son compte à sa grande carcasse. Il s'effondrera pour quelques instants s'il reçoit un coup mortel à son insu. Il le sait, le rapace, et il ne vous tournera jamais le dos à la légère. Méfiez-vous plutôt, car si vous, vous lui tournez le dos une seconde de trop, il vous arrachera le cœur avec art et sans excès de douceur. Ce soir, conclut la princesse, il ne vous demandera rien de bien sorcier, vous verrez. Surtout, ne refusez jamais de front, trouvez des excuses. J'ai confiance en vous. Si l'occasion se présente, n'hésitez surtout pas à lui trancher la gorge. Tout à l'heure, je lui soutirerai quelques secrets, ce qu'il vous réserve pour demain, par exemple. « Allez, prince, allez vite, » fit-elle, prise d'une soudaine agitation. « Retournez dans la cour et refermez bien derrière vous. L'ogre ne doit surtout pas savoir que vous êtes déjà venu ici. » Elle eut un sourire de tristesse, s'étendit toute blanche sur sa couche blanche et, tremblant légèrement, ses doigts blancs replacèrent la fleur bleue sur son oreille. Instantanément, elle se rendormit. Et lui, au pas de course, il enfila couloir et grand salon. La basse-cour était déserte. Il aperçut au loin la silhouette d'un cavalier qui dévalait le col au grand galop. Le monstre avait défroqué et, repoussant, effroyable et nauséeux, y mit pied à terre et parut dans son état naturel. Une araignée, debout, qui dépassait le prince de trois têtes. « Vous avez fait ce que je vous avais demandé, » gronda-t-il. « Bon, suivez-moi. » Ils allèrent dans la cuisine, une pièce sans lumière, où l'atmosphère avait une texture de laitance et des odeurs ambiguës. « Vous voyez le fourneau, » dit l'ogre, au milieu de la pièce. « Eh bien, je voudrais que vous en fassiez trois fois le tour. » Épreuve idiote s'il en est, d'où le front et le dos n'étaient pourtant guère exclus. « Si je lui obéis, pensa le prince, il me sautera dessus par derrière. Et si je refuse, je suis perdu. »« Oh, il ne fait vraiment pas clair ici, » dit-il. « Vous ne trouvez pas qu'on n'y voit rien ? Je voudrais pas abuser, mais si vous aviez l'amabilité de passer devant moi pour que je repère les lieux. » Le monstre grogna, mais de mauvaise grâce, il s'exécuta. Il courut, littéralement, à trois reprises autour du grand fourneau, sans laisser au prince le temps de dégainer son épée. Ne grognant plus, mais rageant et gargouillant de vexation, il enferma le prince dans la cuisine et s'en fut rejoindre la femme que son cœur gavé de cœur aimait. Le lendemain, il partit à l'aube et disparut à l'horizon. Le prince parvint à forcer le cadenas et courut au chevet de la belle endormie dans la chambre de cristal. Il saisit la fleur en se retenant de respirer. La jeune fille se réveilla. Le temps d'un éclair, il imagina qu'elle était de connivence avec l'ogre. « Bonjour, prince, » commença-t-elle en rougissant un peu. « Mes félicitations pour hier soir. Dommage que vous ne l'ayez pas eu. Oh, je n'ai même pas eu le temps de dégainer qui n'était plus là. Vous avez eu peur. Bref, » fit-elle en souriant à peine, « voici ce qui vous attend ce soir. » Elle reprit alors, exemple à l'appui, son exposé de démonologie pratique et le prince, à elle soumis comme à une espèce de maître spirituel plutôt qu'à un objet de courtoisie, s'en repartit avec le soir affronter le monstre. « Suivez-moi !» commanda l'ogre en mettant pied à terre. Cette fois, il emmena le prince, sans jamais lui tourner le dos, dans la grande salle d'audience, puis il alla se jucher sur son macabre trône et ordonna « Prosternez-vous à mes pieds de tout votre long, 3 fois !»« Je suis prince, moi aussi, » osa le prince. « Vous comprendrez donc que je n'ai guère eu l'occasion de me prosterner devant qui que ce soit. En un mot, je ne sais pas comment on fait. Auriez-vous l'obligeance de me montrer ?» La haine au ventre, l'ogre ne put encore se dérober. Le masque, enlaidi de rictus et de tics inédits, étincelant d'atroces sécrétions, il glissa au bas de son trône et sans la rude lourdeur qu'on suppose à la plupart des monstres, il s'étendit de tout son long, les yeux mi-clos, au pied du prince, qui dégaina d'un trait. À la deuxième prosternation du monstre, le prince leva son épée au-dessus de sa tête. À la troisième, il l'abattit avec une vigueur surhumaine et d'un coup décolla l'ogre, dont le chef affreux roula jusqu'au pied d'une colonne dans un tourbillon de sang violacé. Sans perdre un instant, le prince remonta dans la chambre de cristal et réveilla la princesse qui, à l'air rayonnant du héros, comprit d'un coup sa victoire. « Ah, voilà qui est bien fait !» s'exclama-t-elle en s'asseyant toute blanche parmi la blancheur. « À présent, il faut anéantir le principe vital du monstre et le plus vite possible. Peut-être une tête est-elle déjà en train de lui repousser ?» Une fois encore, la princesse décrivit au prince sa mission. À présent, il connaissait la cachette essentielle de l'ogre. Il jura à la princesse de suivre ses conseils et s'enfonça dans les caves de la forteresse. Ainsi qu'elle le lui avait annoncé, il traversa 9 sombres caveaux et se retrouva devant un mur aveugle. Avec la garde de son épée, il gratta 3 fois le mur en répétant « Mur aveugle, ouvre-toi !» Et à la 3e fois, le mur s'évanouit en lui donnant accès à une 10e chambre souterraine. Une lueur blanche éclairait le visage d'un jeune homme aux traits divins, les yeux fixés sur la lumière qu'il tenait dans ses mains. Habitué à la pénombre, le prince reconnut l'adolescent que la princesse lui avait décrit. C'était le gardien du principe vital de l'ogre, et sur ses mains reposait un grand bol de cristal plein à ras-bord d'un liquide cristallin. Vif comme un serpent, le prince plongea son épée dans le cœur du jeune homme et s'empara sans à-coups du bol au contenu lumineux. La princesse lui avait chaudement recommandé de ne pas en renverser une seule goutte, car chacune des gouttes qui composaient la liqueur rayonnante était le principe vital, ce grain de lumière indispensable à la vie de chacune des victimes de l'ogre. Quand il eut rapporté le précieux bol à la jeune fille, elle ne lui laissa pas le temps de s'asseoir pour reprendre son souffle. Au contraire, elle se leva et, caressant la joue du jeune homme, lui dit « Merci, prince. L'ogre n'est plus. Quel bienfait pour le monde. Mais nous n'en avons pas encore fini. À présent, nous allons essayer de rendre la vie à ses victimes. » Alors ils parcoururent des couloirs, grimpèrent des escaliers, se faufilèrent par des passages secrets et parvinrent à une vaste chambre, basse, glaciale, ténébreuse, où, étendus comme s'ils dormaient, reposaient plusieurs 10aines d'hommes, de femmes et d'enfants. « Voilà, » dit la princesse, « vous voyez, il leur a juste arraché le cœur. » Ce faisant, il ajoutait leur principe vital au sien. Rendez à chacun une goutte de vie. Et en se réanimant, chacun retrouvera un cœur. Et le prince opéra avec une patience infinie. On se réveilla, on bâilla, on rota, on échangea ses dernières impressions, on se pinça les joues et l'on se réjouit. Au cœur de tout cela, les cœurs battaient. On ne savait plus quel remerciement, quelle action de grâce, quelle louange inventer. On rentra chez soi. Bien, la princesse décida de rester châtelaine de la Noire Forteresse et le prince repartit avec son chien et son cheval magique pour de nouvelles aventures. Ils ne se marièrent donc pas et restèrent des enfants. Des enfants comme nous sommes peut-être retrouvés, nous-mêmes en écoutant ce conte merveilleux. Et il était encore une fois, il était une autre fois dans un village de voisins. Tsering était riche, arrogant et avare. Et Champa était pauvre, humble et généreux. Un couple d'hirondelles vint nicher sous l'avant-toit de Champa et bientôt pépièrent les hirondeaux. Un jour que père et mère oiseau étaient allés aux commissions, un petit tomba du nid sur le seuil du bon de Champa et se brisa une patounette. En rentrant chez lui, Champa trouva l'oisillon, le ramassa et vit qu'il avait la patte cassée. Avec mille délicatesses, il la remit en place en la maintenant avec du fil. Puis il grimpa sur un tabouret et relogea l'hirondeau dans son nid. Et l'oisillon blessé grandit et avant longtemps s'envola. Quand il revint, il peinait à serrer dans son bec un énorme grain d'orge qu'il déposa devant Champa, rêvassant, accoudé seul à sa table vide. Deux petits cris étranglés lui échappèrent, puis il parla. « Vous avez été bon avec moi. Acceptez le présent de ce grain d'orge. » fit simplement Champa, aussi ému que surpris. « Plantez-le et vous verrez. » En deux coups d'aile, l'hirondeau se renvola. « C'est le geste qui compte, » pensa Champa. « Cet oiseau-là n'a rien d'un ingrat. Ce grain d'orge, ma foi, on dirait une noix. Je vais le planter, petit oiseau, ne t'en fais pas. » Il le planta devant la porte de sa masure et l'oublia. Une lune passa, puis la moitié d'une autre, quand soudain le grain germa, la tige monta et s'épanouit en mains épis. Cela prit moins de 3 jours. Champa s'approcha. En guise de grain, chaque épi renfermait une pierre précieuse. Contenant sa joie, Champa ramassa les pierreries et le soir même, il les négociait à prix d'or dans une arrière-boutique de la ville voisine. Et il était riche à présent lui aussi et il jouit de tous les conforts, de toutes les beautés, jouant sans y croire aux joies de la prospérité. L'heureuse apparition de toutes ces richesses ne resta pas sans mettre la puce à l'oreille du voisin déjà riche, l'arrogant et avare Tsering, ni sans exciter sa jalousie et sa curiosité. Et à la première occasion, il se présenta chez Champa avec une grosse cruche de Chang, et sous prétexte de bon voisinage, il s'employa à faire parler l'ancien pauvre pour lui arracher le secret de sa soudaine réussite. Oh, Champa avait l'intelligence bonhomme. Les préjugés et les rancunes lui indifféraient et pas un instant il ne soupçonna la perfidie de Tsering. Grisé de Chang et de sympathie, il raconta l'hirondeau à la patounette cassée, le grain d'orge énorme et les épis fourrés de joyaux. Après quoi Tsering rentra chez lui en se frottant les mains. Il se trouvait justement qu'un couple d'hirondelles s'était installé au-dessus de sa porte sous l'auvent et que des hirondeaux leur étaient nés qui piaillaient à tue-tête. S'armant d'une paire de baguettes et d'un tabouret, Tsering préleva un petit et le lâcha du plus haut qu'il put. Et l'oisillon s'écrasa au sol. Pouf, il n'a qu'une patte cassée. Tsering le soigne sans trop de patience, le bande avec un peu de fil et l'horloge dans son nid en se jurant que si l'oiseau était ingrat. Mais il ne le fut pas. Dès qu'il le put, l'hirondeau s'envola et revint chargé d'un énorme grain de blé cette fois. Il le lâcha sur la table où Tsering faisait ses comptes et dont le front se plissa. Champa n'avait-il pas parlé d'orge ? Bon, qu'à cela ne tienne, dit l'oiseau de sa voix élastique. Je voulais vous remercier pour votre bonté, Tsering. Déplucez-moi ce front et plantez ce grain dans votre jardin. Vous verrez. Tsering se détendit. Glapissant d'excitation, il imaginait ce que cela pouvait être qu'être encore plus riche qu'il ne l'était déjà. Dans son jardin, il choisit un carré de terre onctueuse et y planta le grain magique avec des égards de barbier ouïghour. Chaque jour, il s'asseyait au bord de son carré de cocagne en regrettant qu'il ne s'agît point d'un champ tout entier. Le grain germa, le germe forcit et darda une puissante tige vers le ciel. Un matin, cependant, Tsering ne retrouva plus ce froment qu'il aimait. À sa place se dressait, tangant et fulminant, une espèce de géant abominable, les bras chargés de paperasse. Tsering sentit, comme si un diablotin les empoignait, ses cheveux se dresser sur sa tête. Il tressauta d'effroi et, en claquant des dents, parvint à demander au monstre ce qu'il faisait là. « Je suis l'un de vos créanciers, l'un de vos multiples créanciers, un seul de ceux que vous avez roulés pendant toutes vos vies. J'ai profité de l'occasion pour venir vous voir et vous réclamer, comment dire, réparation. » En un tournemain, la monstrueuse apparition fit valoir ses droits et dessaisit l'arrogante Tsering de sa demeure, de ses troupeaux de mérinos, de ses champs d'orge et de toutes ses babioles dorées et argentées. Et Tsering ne fut bientôt plus qu'un esclave dans sa propre maison. Les mois passèrent et Champa, béni de la fortune, vint rendre visite au nouveau pauvre. Il voulait lui confier certains sacs de poudre d'or qu'il ne pouvait emporter en voyage ni laisser chez lui. Intimement au fait des lubies des gens riches, Tsering ne rechigna point et accepta de prendre soin du précieux sac. Misérable et cupide, il ne put toutefois se retenir d'y puiser eau pour des broutilles, très peu à la fois certes, mais si souvent qu'il finit par l'épuiser. En désespoir de cause, il remplit le sac de sable et attendit, non sans appréhension et toujours au service de son terrible créancier, le retour de l'aimable Champa. Rentré de voyage, celui-ci alla chercher son sac et découvrit l'imposture. Tsering fit l'étonné, jura qu'il n'y était pour rien et conclut avec de grands mots « Mais mon ami, c'est une mutation, que dis-je, une métamorphose ?» Le bon Champa ne s'indigna pas, s'énerva moins encore et regagna ses pénates sans autre commentaire. Bientôt, pourtant, la nouvelle courut que Champa allait ouvrir une école gratuite pour les enfants. Tsering, bien entendu, y envoya son petit garçon. Mais un jour que son maître, le monstre, voulait qu'il passât quelque temps en ville, il fut bien forcé de confier à son vieux voisin, l'excellent Champa, son gamin qu'il ne pouvait emmener avec lui ni laisser seul dans ce qui n'était plus sa maison. Or, Champa n'y vit pas d'objection. Toutefois, il se procura sur le champ un singe apprivoisé, auquel il apprit à répéter « Mes chers pères, c'est une mutation, que dis-je, une métamorphose ?» Dès son retour de voyage, Tsering se rendit à l'école. Champa faisait la classe aux enfants. « Où est mon fils ?» s'exclama Tsering. Le gamin, en effet, était absent. Sans un mot d'explication, Champa quitta son siège et alla chercher le singe en le poussant affectueusement jusqu'à son vieux voisin. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» s'écria ce dernier. « Ce n'est pas mon fils. Où est l'enfant que je vous avais confié ?»« Mes chers pères, » récita le singe de sa voix criarde. « C'est une mutation, que dis-je, une métamorphose. » La rage de Tsering laissa Champa de marbre. N'était-ce pas l'heure de la leçon? Alors, à condition qu'on lui rendît son fils, le malheureux avare accepta de restituer la poudre d'or, grain par grain, à son heureux voisin. Il me reste quelques secondes pour vous dire au revoir et à une autre fois.